Quand vos reporters tendent
l'oreille au cœur
du Valois-Mulcien, c'est
l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
Alors pour RVM.
Bonjour, c'est Yann.
Bonjour, Frédéric.
Alors qu'est-ce qui se passe ? C'est
l'oreille dans le coin.
Bonjour, c'est Yann. Aujourd'hui, je suis à Saint-Sauveur, chez Thibaut Boucher, le créateur du rucher de Jérôme Hénil. Thibaut, bienvenue dans l'oreille dans le coin et sur RVM.
Bienvenue ici, chez moi, dans ma mielerie, entourée de tout ce miel.
Avant de parler justement de votre passion pour l'apiculture, est-ce que vous pouvez vous présenter aux auditeurs ? Je vais débuter si vous voulez. Vous avez actuellement en 2021 30 ans et vous êtes également passionné de cuisine, Thibaut.
Tout à fait. J'ai démarré mon activité professionnelle dans la restauration. Donc j'ai commencé en cuisine, j'ai fini en restauration. Après quelques années, j'en ai eu marre et du coup, j'ai voulu changer de métier et me voilà dans les abeilles.
Vous avez travaillé dans des maisons assez prestigieuses ?
Oui, tout à fait. La Tour d'Argent pour Jean-François Piège et d'autres petites maisons, mais qui sont assez reconnues dans Paris.
Et donc, en 2014, vous avez commencé à créer ce rucher ?
Alors, j'ai commencé, j'étais encore en restauration. J'avais un petit peu de temps libre parce que j'avais fait beaucoup d'heures et j'avais dû récupérer. Donc, j'ai commencé avec une ruche à cette époque-là. Et aujourd'hui, j'en suis à 250 et je suis professionnel aujourd'hui.
Vous êtes autodidacte ? Vous avez commencé l'activité en regardant des vidéos sur YouTube, c'est ça ?
Entre autres, mais aussi beaucoup de littérature. Et j'ai été faire une saison chez un professionnel qui m'a permis d'avancer énormément sur l'apprentissage.
Et ce professionnel, c'est un apiculteur qui est basé à Béthisy, c'est ça ?
Oui, tout à fait, Luc Leclerc. Donc lui, ça fait 25 ans qu'il fait de l'apiculture, ça fait une bonne dizaine d'années qu'il est professionnel maintenant. Donc du coup, il m'a pris quelques ficelles du métier.
Vous définissez comme le simple berger des abeilles, parce qu'en fait, quelque part, être apiculteur, c'est suivre l'évolution de la colonie des abeilles ?
Alors effectivement, mon objectif premier, c'est de faire survivre l'abeille et de répandre au maximum sa vie, en fait, de faire ce qu'elle ne peut plus faire naturellement aujourd'hui.
Donc en fait, vous surveillez d'assez près l'état des réserves ?
Alors les réserves, c'est on contrôle uniquement s'il y a besoin, dans les périodes de sécheresse ou au tout début du printemps, quand les périodes sont compliquées, quand il fait très humide, très longtemps, que les abeilles peuvent pas sortir de la ruche.
Ce qui est important également, Thibaut, c'est l'état sanitaire quand on est apiculteur, c'est quelque chose qui est important ?
Alors oui, tout à fait. C'est comme tout animal domestique, il faut les soigner quand il y a besoin. Et par moment, il y a des maladies qui sont incurables et on est obligé de détruire les colonies.
Vous définissez apiculteur plus naturel que bio ? Est-ce que vous pouvez faire cette distinction, s'il vous plaît ?
Alors le bio, pour moi, c'est un label fait par les industriels pour vendre des produits peut-être de meilleure qualité que le conventionnel, mais ce n'est pas encore assez poussé pour moi.
C'est-à-dire, qu'est-ce qui manque ?
Peut-être les critères de ce qui rentre dans la ruche, comme des partitions en aluminium, ou alors du polystyrène ou du plastique. Il y a encore des choses comme ça qui sont encore autorisées.
Est-ce que vous pouvez parler aux auditeurs des difficultés du métier ?
Alors les difficultés sont multiples, parce qu'on travaille avec du vivant, donc c'est jamais pareil, donc on ne peut pas se baser sur une année d'avant, où il n'y a pas d'année type. C'est-à-dire qu'il y a une année, ça va être extrêmement bien, comme cette année où ça a été correct, mais pas exceptionnel. L'année dernière, c'était une année exceptionnelle, mais on a eu de la sécheresse en fin de saison. Mm-hmm. Donc c'est compliqué de toujours vouloir gérer les choses. D'accord. C'est l'élevage, donc c'est très compliqué, quoi.
Oui.
On doit s'adapter tout le temps en permanence à ce qu'on doit faire.
Et vous devez faire face depuis plusieurs années à la mortalité des abeilles également ?
Alors oui, mais ça vient surtout en particulier de l'apiculteur. C'est souvent pas dit, mais les mortalités sont dues à l'apiculteur, aux mauvaises pratiques apicoles.
D'accord. C'est pas dû au réchauffement climatique, etc. Il n'y a aucun lien ?
Alors si, ça a forcément un lien, plus ou moins différent en fonction des saisons. Comme cette année où on a eu un été très très sec, il a fallu complémenter les colonies en fin de saison pour pouvoir qu'elles puissent passer l'hiver correctement et qu'on les retrouve au printemps. Sans ça, on les voit mortes.
On peut parler du matériel également, peut-être le décrire. Et j'ai cru entendre que c'était un matériel assez onéreux pour...
Alors effectivement, on peut acheter une ruche basique faite dans l'Est à peu cher, ou alors du matériel français qui est beaucoup plus onéreux. Mais après, on favorise le local, la production des menuisiers et du bois français.
Le matériel, c'est simplement la ruche ?
Alors non, il y a également tout le matériel d'extraction, le rayonnage, la mise en pot, et tout ça va impacter forcément le prix du miel, mais aussi la qualité du travail.
D'accord. Vous parliez également, on peut parler également des normes d'hygiène qui sont au fur et à mesure des années assez drastiques.
Alors drastique, oui, forcément, mais c'est un peu un passage obligé parce que sinon on ferait tout et n'importe quoi.
Justement, quelles sont ces normes d'hygiène à respecter ?
C'est exactement les mêmes qu'en restauration, c'est la marche en avant, ça va être le nettoyage des postes de travail très régulièrement, l'espace de miellerie, comme en restauration, c'est le même principe.
Parfois, il faut gérer aussi avec le voisinage, qui n'est pas forcément compréhensif.
Alors oui, effectivement, c'est compliqué. L'abeille, c'est un animal semi-domestique, enfin, comme moi je peux l'appeler. C'est-à-dire qu'on va l'élever pour gagner de l'argent et faire du miel, mais c'est aussi un animal qui fait un peu ce qu'il veut. Il va dans la nature, il va faire ses besoins, il peut piquer par moment. Ça peut être plus ou moins agressif en fonction des saisons. Donc effectivement, il faut jouer avec ça et être compréhensif envers le voisinage, mais des fois aussi que le voisinage soit compréhensif envers nous.
Justement, l'emplacement des ruchers chez vous, vous pouvez un petit peu l'expliquer, le détailler ?
Alors, moi, j'essaye d'avoir les ruches le plus loin possible des habitations ou de lieux de passage. Après, ce n'est pas toujours possible. On fait avec les terrains qu'on trouve, parce que malheureusement, les terrains sont très peu mis à disposition au niveau des apiculteurs, parce qu'il y a toujours la peur de l'abeille. Après, on essaye de trouver les terrains assez éloignés. Peu praticable en voiture. On utilise des gros 4x4, du coup, pour s'en sortir, mais ça évite le vol. Mmh. Les dégradations par des jeunes qui peuvent s'amuser à les pousser pour se donner de l'adrénaline.
Ouais.
Donc voilà, il y a quand même quelques petites choses à prévoir, quoi.
D'accord. Quel serait selon vous l'emplacement idéal pour un rucher ?
Alors l'emplacement idéal, ce serait un endroit clos, pas forcément sécurisé, mais déjà clos, ça va déjà éviter les problèmes. Un emplacement avec de quoi accéder avec une voiture, parce que sinon, vu le travail et les charges qui est apporté, c'est vite contraignant. L'emplacement au soleil.
Oui.
Le soleil, c'est important. Et éviter les vents dominants.
Vous écoutez actuellement Thibaut Boucher, le créateur du rucher de Jérôme Hénil, basé à Saint-Sauveur. Alors, monsieur Boucher, est-ce que on pourrait parler un petit peu de la consommation du miel ? Pour vous, c'est important de connaître sa provenance ?
C'est ultra important parce que si on ne sait pas d'où ça vient et comment c'est produit, on peut manger n'importe quoi. On peut manger un bon miel fait par un apiculteur local, que ce soit moi ou un autre. Et ça peut être aussi de miel industriel qui vient de Chine et on sait quasiment pertinemment que c'est des sucres ajoutés ou pas des faux sucres.
Ce qui est important, c'est de connaître son mode d'extraction aussi ?
Alors oui, puisqu'il y a différents types d'extraction, enfin de manières d'extraire le miel. Plutôt à froid ou à chaud, et ce qui va intervenir dedans, c'est les processus mécaniques, parce que forcément le miel c'est lourd à porter. Quand on fait 20 kilos ça va, mais quand on en fait 4 ou 5 tonnes, on l'a vite porté 10 fois, et donc du coup c'est vite fatigant, quoi.
Les abeilles ici produisent du miel, mais elles produisent également du pollen.
Alors oui, effectivement, du pollen, beaucoup moins, mais du pollen, de la propolis et de la cire.
Est-ce que vous pouvez un petit peu faire la différence entre ces différents produits ?
Alors vous avez le miel qui est la nourriture principale de l'abeille, qui est son énergie. Ensuite vous avez le pollen qui est riche en vitamines, minéraux et protéines, donc qui va leur donner leur force et leur longévité. Et ensuite vous avez la propolis qui va leur servir à aseptiser la ruche et en tant que médicament. Et ensuite vous avez la cire qui va être utilisée en tant que bâtisse, donc pour construire les rayons, élever les larves, etc.
Chacune n'ont pas les mêmes vertus ?
Alors non, chaque élément a ses vertus particulières. Donc le miel, on peut se soigner avec, puisqu'il est antiseptique, antifongique, antibactérien. Mais en plus de ça, il y a les propriétés des plantes, pour lesquelles les abeilles ont été butinées. Donc du coup, c'est intéressant pour les petits maux de tous les jours. Ensuite, on a le pollen, qui va nous aider nous, à nous fortifier,
oui.
Récupérer des vitamines, des minéraux. C'est ultra important, puisqu'on est avec l'alimentation moderne, on a beaucoup moins de nutriments et de micronutriments. Donc ça va nous aider. Et ensuite, la propolis qui va nous aider à nous soigner
aussi.
Du mal de gorge, par exemple, un rhume, des petites bricoles comme ça. Et ensuite, la cire, on peut l'utiliser pour faire des bougies, des baumes, des cosmétiques, quels qu'ils soient.
Une ruche, ça produit environ combien de kilos de miel par an ?
Alors, c'est difficile à dire, mais on prend une moyenne nationale, elle est à 25-30 kilos en moyenne. Nous, ici, on a un petit peu plus, qu'on a des zones quand même qui sont assez mellifères. Mais après, une ruche, ça peut produire de 0 à 100 kilos. Mais la moyenne, c'est une 30-35.
Question aussi de quantité. Combien d'abeilles contient une ruche environ ?
Alors, en période hivernale, on va être 20 000 abeilles à peu près. Et en plein été, on peut aller jusqu'à 80 000.
C'est énorme ?
C'est énorme, mais il faut ça parce que pour produire 1 kilo de miel, il faut 5 000 abeilles. Donc il faut quand même, pour produire 35 kilos, il faut quand même une sacrée quantité d'abeilles pour pouvoir produire ce miel.
Est-ce que Thibaut, vous pourriez parler du phénomène naturel qu'on appelle la cristallisation, s'il vous plaît ?
Alors la cristallisation, c'est un phénomène naturel que tous les miels ont. Ça va dépendre du taux de glucose et de fructose qui va varier dans le miel. Et c'est un indicateur de qualité quand on le voit cristalliser. Contrairement à ce qu'on peut croire en le voyant liquide dans les supermarchés, c'est souvent qu'il a été réchauffé. Donc du coup, on a tué une très grosse partie, voire la totalité des propriétés du miel.
Qu'est-ce que vous conseilleriez pour quelqu'un qui souhaiterait devenir apiculteur dans les prochains mois ?
Alors une très bonne formation, parce que sinon on va de désastre. Puisqu'on va tuer énormément de colonies, c'est parce que c'est quelque chose d'ultra technique maintenant, avec l'arrivée des pesticides, des changements climatiques, de la monoculture, de la tonte à foison dans les jardins. Et tout ça, ça va mettre à mal la quantité disponible d'éléments dans la nature. Donc du coup, on est obligé soit de transhumer pour compenser des carences de quelque chose ou supplémenter avec des apports.
On est dans votre boutique, dans votre épicerie, on peut dire ça. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu du miel que vous vendez ici ? Devant nous, on a dans un premier temps ce qu'on appelle le miel de ronce.
Cette année, j'ai produit 9 miels différents. En fonction des saisons, donc on va avoir des miels de plus ou moins forts, plus ou moins doux, avec une cristallisation qui va être plus ou moins granuleuse en fonction du type de miel. Voilà. Ensuite, vous avez des appellations particulières comme le miel de printemps, le miel de tilleul, le miel de ronce, le miel de châtaignier, le miel d'acacia, le miel de fleurs, de forêt et de miel. Et chacune a ses propriétés, ses vertus, sa texture, et c'est ça qui est intéressant dans le miel. D'accord. Comme le vin.
C'est ça ?
C'est ça.
Il y a vraiment beaucoup de différences entre toutes ces appellations ?
Alors effectivement, vous allez prendre le printemps qui va être très doux, sucré et crémeux. Donc qui va être tendre à tartiner. Vous allez prendre un miel de tilleul qui va être mentholé, un miel de châtaignier qui est très très amer et qui est très fort, qui est intéressant pour mettre dans le pain d'épices, le miel d'acacia que tout le monde connaît, qui reste plus ou moins liquide et qui est tout doux, voilà, et qui est intéressant pour les diabétiques.
Ici, vous avez d'autres produits, vous fabriquez également du pain d'épices.
Alors, on fabrique du pain d'épices, on en a toujours. On a plein de choses en tête qui vont venir, comme la bière, l'hydromel, des choses qui sont en préparation mais qui vont prendre énormément de temps à mettre en place parce que du brassage ou de l'hydromel, il va falloir entre 1 et 6 mois, 2 ans pour faire un produit, quoi.
Et là, en début d'année 2021, comment se porte votre petite entreprise ?
Pour le moment, je ne vais pas me plaindre en vue des contextes économiques. C'est vrai que j'aimerais que ça aille encore plus vite. Mais voilà, il faut prendre le temps de faire les choses pour arriver assez loin et puis pérenniser la chose.
Est-ce que vous êtes en lien avec les différents apiculteurs du coin ?
Alors j'essaye de plus en plus, c'est un travail que j'essaye de faire, parce que pour moi, plus on est, plus on discute et plus on est fort. Vu que je suis très ami avec Luc Leclerc à Béthisy, avec d'autres apiculteurs, maintenant j'essaie d'aller les chercher et de comprendre comment fonctionne le métier professionnel de l'apiculture. En Hauts-de-France, on est très très peu, contrairement à ce qu'on peut croire. Lundi 11, je suis allé dans une association des apiculteurs professionnels du nord de la France.
D'accord.
Et on est 32.
C'est peu.
C'est extrêmement peu, comme quoi la profession a du mal à se montrer aussi, puisqu'on est assez peu présent dans le monde agricole. Du coup, on nous écoute peu.
Ouais, il faudrait plus d'oreilles.
Beaucoup plus d'oreilles, et malheureusement, il y a un sacré manque de communication, que ce soit d'un côté de la presse ou des apiculteurs qui ont forcément peur de dire des choses, comme j'ai perdu des colonies, j'ai eu telle ou telle chose. Parce que forcément, on est interdépendant des agriculteurs, mais aussi des riverains. Donc c'est extrêmement compliqué de conjuguer tout.
Pour vous joindre, comment font les auditeurs, s'il vous plaît ?
Alors, soit par mon téléphone portable, soit par Facebook. Il n'y a aucun problème, on répond assez rapidement, que ce soit moi, ma femme ou les personnes de mon entourage qui sont connectées. Il ne faut pas hésiter à appeler pour des renseignements ou pour venir acheter à la boutique. Alors mon numéro de téléphone c'est 06 17 22 72 54 et le Facebook c'est Les Ruchers de Jérôme Hénil.
Très bien. Thibaut Boucher, merci.
Merci à vous.
Voilà, c'était Yann. J'étais donc à Saint-Sauveur chez Thibaut Boucher pour parler des ruchers de Jérôme Hénil. Merci de votre écoute. Au revoir.
L'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
À très vite sur l'antenne d'RVM.